La création de l'homme. Chers amis, Hashem Alechem Tihyu, Leori Chayim Shanim Naim, Yazanu Shem Adonai, Osei Shamayim Baaretz. La création de l'homme se produit le sixième jour de la création, qui elle-même débute le 25 Elul. La Torah décrit les étapes de la création au début de Bereshit. Cette création-là prend six jours. Donc le départ de la création, le premier jour, c'est le 25 Elul. Alors que la création de l'homme se produit le sixième jour, vendredi. Et l'homme est alors créé, c'est le jour de Rosh Hashanah. Puisque comme le Midrash le dit, que l'homme a été créé ce jour-là, il a fauté et il a été jugé. Chaque année à cette date, tous les éléments de la création reviennent et rejoignent le point initial, là où ils se trouvaient lors du début. Ils doivent se renouveler, recevoir des forces neuves, renouvelées, des forces, des énergies qui n'ont jamais encore apparu dans ce monde. Ces énergies-là, cette vie qui va être octroyée pour l'année à venir, correspond exactement à la qualité de l'année qui va commencer et au projet divin qui la concerne. Le projet divin est fonction des énergies qui vont lui être octroyées. C'est la reconduction du système. À chaque année correspond une qualité spirituelle qui est spécifique, particulière, qui s'exprime par des orotes, des lumières spécifiques qui sont, ces lumières-là sont divisées en années, en mois, en semaines, en jours, en heures et en instants. Et ces années-là entrent dans un système de dizaines d'années, puis de centaines d'années, puis de millénaires. De sorte que nous sommes en 5777. Nous sommes donc dans le sixième millénaire qui correspond à la séphira générale du Yesod, qui est symbolisé par le personnage de Yosef HaTzadik. Les 700 ans, dès qu'il y a 700 plus 1, nous sommes passés dans la huitième sphira. Nous sommes donc 700 plus, ce qui correspond à la sphira du Hod, symbolisé par Aaron HaKohen, qui est la sphira de l'humilité, de la splendeur, de la gloire dans l'humilité. Les dizaines d'années, elles aussi, correspondent au Yesod, au Hod, puisque c'est dans les 70. Plus la septième année correspond au Netzah. C'est la Midda de l'éternité, de la victoire, de l'ambition, celle de Moshe Rabbeinu. De sorte que chaque année s'inscrit dans un système et a une particularité absolue qui est différente de toutes les autres années. Ce qui est valable aussi pour les mois. À chaque mois correspond une combinaison du mois du nom divin. À chaque semaine correspond un système particulier. Chaque jour de la semaine a une qualité particulière. Chaque heure a aussi une qualité particulière, et les heures se divisent en 1080 instants, qui sont aussi des éléments, des instants créés, qui voient le jour à l'instant où nous vivons. Les hommes ont pour mission l'arrangement de toutes ces lumières, par l'accomplissement des mitzvot, de l'étude de la Torah, du raffinement du caractère humain, l'entraide, l'amour, le souci des autres, etc. Tout ça, c'est la réparation de ce monde. Pour remplir cette mission, nous avons besoin de moyens, d'outils spirituels et matériels. C'est le sens du jugement. Il est fonction de l'année passée. Les hommes ont-ils rempli leurs devoirs pour l'année écoulée? L'instant présent se construit sur l'instant qui le précède. C'est pour cela que l'année à venir dépend du jugement de celle qui l'a précédée. Le mot Adam, l'homme, l'humain, a pour racine le verbe ressembler, comme dit le prophète, par l'intermédiaire des visions, par l'intermédiaire des prophéties Je me montrerai, vous aurez l'image du Créateur. Biadanevi madame. C'est-à-dire que la vision ressemble à la présence du Créateur. Et de même que l'homme ressemble à son Créateur, par son intelligence d'une part, par ses actions d'autre part, le corps de l'homme et tout le reste de la création sont aussi à l'image des éléments spirituels, des mondiaux. Là où il n'y a ni corps, ni matière, mais uniquement de la spiritualité que nous appellerons lumière. C'est le sens de ce que dit Job dans son verset. Et de ma chair, je verrai Dieu. Mi besari ehezé Eloah. Le Talmud Brachot 61 cite l'enseignement de Rabbi Yirmiya ben Elazar. Au sujet du verset de Bereshit, il est dit, Vayetzer Hashem Elohim et Adam. L'Éternel a façonné l'homme. Ce mot Vayetzer sous-entend que l'homme a été créé à partir d'un élément déjà existant. Il a façonné à partir d'une matière déjà existante, la matière première. Ce mot-là est écrit avec deux yod. Cela est expliqué dans le Talmud de la manière suivante. Dieu a créé deux faces au premier homme. D'une part, une face mâle, masculine, et d'autre part, une face féminine. Ils étaient joints dos à dos. L'une d'elles fut plus tard séparée afin de former la première femme, Hava, comme il est dit, « Ahor vakedem tzartani, tu m'as créé de l'arrière et de l'avant. » Le double yod fait allusion à cette double formation. La Gemara Ktubot dit, au nom de Rabbi Yehuda, la contradiction souligne la contradiction suivante. Il est dit dans Bereshit, Dieu a créé l'homme à son image. La création de l'homme est mentionnée au singulier. Ce qui indique qu'une seule entité, homme-femme, a été créée. Mais il est dit plus tard, et il les a créés hommes et femmes. Ce qui indique que ce sont deux entités distinctes qui ont été créées. Comment cela peut-il s'expliquer? Nous répondons les sages. Au début, la volonté était de créer deux êtres humains distincts, un homme et une femme. Mais finalement, un seul fut créé, à la fois homme et femme. La volonté première, littéralement la première pensée, était de les créer mâle et femelle avec deux visages, deux corps distincts. Mais finalement, Hachem le créa au singulier, composé de deux visages, de deux facettes. D'une part, une facette masculine et une facette féminine, dos à dos, regardant chacun dans une direction opposée. Chacun regarde le monde dans sa propre direction. La Gemara Menachot 29 rapporte le verset dans Yeshaya. Ki bia Adonai tzur olamim. Hachem, éternel, a créé le monde, les mondes, avec Yah, Yud, Ke. La Gemara pose la question, Yud, Ke étant deux lettres du nom. La Gemara pose la question, pourquoi est-il Beya? Il était suffisant de dire, que, parce que le B c'est un préfixe, il était suffisant de dire, Kiya Hashem sur Olamim. Hashem, qui est lui-même appelé Yud, Ke, Yah, a créé les mondes. Pourquoi est-il besoin de préciser avec un suffixe? Comme si que Hachem a utilisé avec le Yud-Ké. Rabbi Yehuda Bar Elaya dit, ce sont les deux mondes que tu as créés, l'un avec la lettre E, le monde ici-bas, et l'autre avec la lettre Yod, le monde futur, le monde Jo. La lettre Yod fait allusion à la pensée qui n'est pas encore exprimée. C'est l'élément premier qui ne peut pas se diviser. Il contient tout. Tout ce qui va apparaître plus tard est enfoui en lui. Cette lettre-là traduit la sphira de la chokhma, la sagesse ou la connaissance. La lettre yod ressemble à un point imperceptible. Quand elle se développe, apparaît alors le hé. C'est la sphira de bina, l'intelligence qui se développe à partir de la pensée première, le yod. En effet, quand on écrit un yod, alors la lettre yod est une petite lettre que tout le monde connaît. Mais quand on la prononce, on est obligé de la développer. Alors le yod devient un yod, plus un vav, plus un dalet. Yod. La lettre vav et la lettre dalet apparaissent. Ces deux lettres, quand on les lit, forment un hé. Quand le vav pénètre dans le dalet, ça devient un hé. C'est le sens de la pensée première, celle de les créer deux êtres distincts, c'est-à-dire vav et dalet, vav faisant allusion au côté masculin, le dalet faisant allusion, référence au côté féminin, et enfin ils ont été créés comme un hé, un seul hé. Il ne faut pas comprendre la pensée première comme une idée qui aurait changé par la suite, mais comme un processus de mise en pratique de l'idée initiale, qui, elle, ne change pas. Ainsi, cette intention première est de les créer en deux éléments séparés, deux corps, deux visages, deux fonctions complémentaires, deux natures totalement opposées. La notion masculine représente la force du donneur, la bonté, le chesed. La notion féminine représente la fonction du receveur, la rigueur, la gvoura. Elle est la possibilité du donneur de se réaliser. Le donneur ne peut se réaliser et s'épanouir que lorsqu'il a acquis donner. Il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir de lui. Donnons l'exemple. Le donneur a de l'eau. Le receveur désire boire. Alors il y a quelqu'un qui se présente avec un récipient, un petit verre, et il tape à la porte et dit « J'ai soif, donne-moi à boire ». Alors le donneur lui dit, moi je donne pas un verre, je donne avec puissance et sans limite. Donc il lui sort une pompe, une lance de pompier, et il ouvre le débit de manière tellement puissante que le verre ne peut jamais être rempli. Le receveur ne pourra remplir son verre que si on réduit la puissance. Sinon, l'eau va se répandre de droite à gauche et tout va partir dans les côtés négatifs. Il faut donc diminuer la force du donneur en la mettant au niveau du receveur. Cette harmonie entre la bonté et la rigueur est appelée la mida de miséricorde, la rachamim. Ces deux notions sont a priori opposées. Il semble qu'elles n'ont pas de lien, qu'elles ne peuvent pas s'associer. Comment faire pour relier d'une part la bonté, l'amour, et de l'autre côté la rigueur? Eh bien, on peut le faire grâce à cette mida d'harmonie qui est rachamim. C'est le travail de l'intelligence, la bina, qui les fait apparaître en un seul corps. Après leur séparation, ils désireront s'attacher l'un à l'autre avec l'intention première qui était qu'ils se lient, qu'ils soient unis. Bémet, cette intention-là se réalisera. Rav Nachman bar Hisda a commenté, il est écrit... Hachem façonna l'homme, etc. Le mot façonner est écrit avec deux yud. Le redoublement du yud est utilisé pour faire allusion aux deux penchants. Là, c'est une nouvelle dracha. Précédemment, nous avons dit que les deux yud faisaient allusion à l'homme, aux deux créations, l'homme et femme, le monde ici-bas, le monde ici-haut, etc. Là, on va nous introduire une nouvelle notion, le penchant du bien et le penchant du mal. Le redoublement du yod est utilisé pour faire allusion aux deux penchants avec lesquels l'homme est créé. Un penchant pour le bien, un penchant pour faire le mal. Le mot yetzer a la même consonance que le mot yetzer, qui signifie le penchant, a la même consonance que le mot vayetzer, créé, façonné. On remarque que du même mot, la Gemara déduit la création de l'homme et de la femme, dos à dos, avec deux penchants, du bien et du mal. Le verset dit, Hachem examina tout ce qu'il avait fait. Et c'était éminemment bien. Vous voyez, il est tov meod. Le Midrash argumente que le mot tov meod, il s'agit, quand on dit tov, c'est le bien. Et quand on dit tov meod, il s'agit du penchant du mal. Le but de la création est justement que le mal se transforme en bien. Quand Yaakov lutte contre l'ange d'Esav, qui est symbolisé, qui représente le penchant du mal, il arrive à le battre. Alors Dieu lui change son nom en Israël. La valeur numérique de Jacob est 282. Celle de Satan, l'ange de Esav, le mal, 359. C'est en additionnant les deux qu'on obtient le nom de valeur numérique d'Israël, 541. C'est en luttant contre le mal et en le maîtrisant qu'on le rend positif et qu'on l'absorbe et on l'a transformé en bien. Donc l'homme à ce moment-là se grandit. L'ange lui dit alors, laisse-moi partir car le jour s'est levé. Alors Gmara dit, il lui dit, je suis un ange, depuis le jour de ma création, mon temps pour dire la louange devant Dieu n'est jamais arrivé que maintenant. Nos maîtres expliquent que cet ange qui est le penchant du mal n'a jamais rempli correctement sa mission. C'est uniquement quand Yaakov arrive à le battre qu'il lui a donné cette qualité de bien qu'il a transformé, que son temps de chanter, de louer Dieu est arrivé. Revenons à la création d'Oado, du bien et du mal. Il semble évident que ces deux choses soient étroitement liées. Il n'est pas fortuit que la création du penchant pour le mal apparaisse à travers la notion de dos à dos. Pourquoi n'ont-ils pas été créés face à face? Puisque la finalité est de les séparer, de les présenter, Adam et Hava face à face, afin qu'ils s'unissent. Il est dit que l'Éternel fasse rayonner sa face devant toi, que l'Éternel dirige son regard vers toi. C'est la Birkat Kohanim, la face, c'est la lumière dont parle le verset, ce sont les bontés qui émanent de la face du Créateur pour atteindre l'homme lui-même. La face de donneur, c'est Hachem qui donne et le receveur, c'est la Shekhina. Les bénédictions se diffusent de la source, de leur source, à destination du receveur avec une puissance maximale quand ils sont face à face. C'est alors le nom de quatre lettres qui est recomposé. Le mot face se dit panim, se diriger vers. Il ressemble au mot penimi, intérieur. Le visage dévoile l'intériorité de la personne. Il n'y a donc pas de déperdition. Le flux est entièrement canalisé vers son destinataire. Dans la situation dos à dos, le flux qui émane du donneur est restreint, limité. Il passe par un écran, qui est le dos. Il est la conséquence d'un manque. C'est l'expression de la rigueur. Le din, la limite. C'est-à-dire que même le donneur qui a la volonté de diffuser ses bontés, quand il le fait de dos, elles prennent les qualités de rigueur. Si le receveur est lui aussi de dos, la notion de rigueur augmente encore de plus belle. L'état de receveur est un état de rigueur, comme nous l'avons déjà expliqué plus haut. Et de plus, il reçoit de dos, qui aussi exprime encore une plus grande rigueur. Au moment du don de la Torah, il est dit, c'est face à face que l'Éternel parle. Panim be panim diber Hashem Achem. Hashem a parlé avec vous face à face sur la montagne. Ils atteignirent alors le niveau prophétique élevé, une compréhension parfaite de la Torah. Ils ont vu ce qui s'entend, etc. Cela quand les hommes ne sont pas méritants. Cependant, quand les hommes ne sont pas méritants, alors l'influence se fait avec restriction et limite. C'est la situation de l'exil dans laquelle nous nous trouvons. Nous n'avons pas la force de lever notre front vers le ciel. Et lui, Hachem, nous cache sa face. L'influence qui nous arrive alors nous permet de nous maintenir juste en vie. Notre compréhension de la Torah est très limitée. D'énormes efforts sont nécessaires pour y accéder. C'est la traduction d'une situation dos à dos. La Gemara Yeruvin rapporte, Rabbi a dit, le fait que je sois plus alerte dans mon étude que mes collègues est dû au fait que j'ai vu Rabbi Meir de dos. Il était assis derrière le maître pendant les cours et il a pu l'apercevoir de dos. Mais si je l'avais vu de face, j'aurais été encore plus fort. Rabbi est le maître qui a codifié la Mishnah, la base du Talmud, la Torah orale qui nous est parvenue. Elle nous est transmise de dos pour souligner la période de la face cachée, celle du galout. Les forces négatives qui sont appelées l'autre côté, Sitra Acha, n'ont pas d'existence propre. Elles tirent leur vie de la sainteté, mais elles ne peuvent en aucun cas se lier à elles par la face, le flux étant extrêmement puissant. Il les fait disparaître. Ils ont peur de lui, se sauvent. Elles ne peuvent s'accrocher qu'au dos de la Kedusha, là où le flux est limité et restreint. C'est le lieu des rigueurs, des dinim, qui s'exprime par les forces de l'attribut de rigueur Elohim. Les forces du mal sont appelées Elohim, Aherim, les autres dieux, les dieux étrangers. Le mot Aherim fait allusion à Ahor. C'est la même racine que le mot Ahor, derrière, le dos, là où ils sont accrochés. Dans le verset dans Bereshit, nous raconte l'alliance contractée entre Yaakov et Lavan. Ils érigèrent un monument et ils dirent, Lavan dit à Yaakov, sois témoin cette pierre que je ne dépasserai pas de ton côté ce monceau et que tu ne dépasseras pas de mon côté pour le mal. En fait, ils font une alliance où chacun d'entre eux a l'obligation de rester chez lui. Et il n'a pas le droit de pénétrer dans le domaine de l'autre. C'est vraiment une alliance étrange, car en fait, une alliance doit créer un échange, alors que dans ce cas-là, elle engendre une séparation. Le Ben Israël comparé à Jacob à la sainteté et Lavan aux écorces, aux impuretés. Celles-ci n'ont pas la force de se tenir face à la sainteté, uniquement de s'accrocher au dos de celle-ci. C'est le sens que le Rav donne de la singulière alliance et pour la raison pour laquelle Moshe est enterré face à Péor, là où ils ont fait l'idole. Chaque fois que Péor se lève pour accuser Israël, il voit Moshe en face et fait marche arrière. Le Harizal, dans Shara Kavanot, explique que si Adam et Hava avaient été créés face à face, leur dos aurait été accessible aux forces négatives. Celles-ci auraient pu se développer plus qu'il ne se doit, afin que ces forces n'aient pas la possibilité de saisir le flux. Adam et Hava sont liés par le dos, ne laissant aucune place aux impuretés. Cette situation dos à dos n'est pas due ici à une faute, comme cela aurait pu être le cas dans l'exil. Il faut à présent les séparer, pour qu'ils puissent de même, de leur propre volonté, car pour le moment ils n'en ont pas la possibilité. Ils ne font que recevoir. Ils ressemblent encore à ce moment-là aux autres créatures qui agissent par déterminisme et selon leur nature, sans volonté réfléchie. C'est ce que nous appelons la nesira, la séparation. La séparation va permettre à chacun d'eux de prendre sa véritable dimension et de développer sa propre personnalité. L'homme, les bontés, et la femme, les rigueurs. Tant qu'ils sont liés, ces notions sont-elles aussi mélangées? La séparation va clarifier ces notions. L'homme représente la séphira du Tiferet, l'harmonie, représentée par le nom de quatre lettres Yudke Vavke. La bonté, c'est le saint béni soit-il. La femme représente, elle, la sphira de Malchut, la royauté, représentée par le nom Aleph Dalet Nun Yod, Ado plus loin Naï. La rigueur, c'est la Shekhina. Il est dit dans le verset, l'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Voyez, appelle Hachem et même tard des mal à Adam. Il a pris une de ses côtes et forma un tissu à la place. Et Dieu, l'Éternel, organisa en une femme ce morceau de viande qu'il a pris. La côte qu'il avait prise, et la présenta à l'homme. La côte avec laquelle la femme fut créée symbolise toutes les rigueurs qui étaient contenues en l'homme. Quand ils étaient liés, la côte est un os dur. Les rigueurs sont remplacées par de la chair, symbole de la modération. Puis cette femme est présentée à l'homme face à face pour qu'il lui dispense les bontés et qu'elle leur donne une forme et une limite. À eux deux, ils conjuguent la bonté et la rigueur pour donner naissance à la miséricorde. Il est vrai que la séparation comporte le risque que l'homme et la femme ne s'entendent pas, n'acceptent pas de vivre ensemble, en partageant les charges de la vie commune. Ils risquent de se donner le dos et permettent aux forces négatives de s'y accrocher. Mais la volonté du Créateur est que les choses se fassent volontairement, par choix et non par obligation. La sagesse consiste à connaître sa place, comme le définissent les maîtres. Les sages développent la paix dans le monde, nous disent-ils, puisqu'ils n'empiètent pas sur le domaine des autres. C'est le sens de l'allumage des lumières de Shabbat. Et Zehu Chacham Amakir et Mekomo. Quel est le sage? Celui qui connaît sa place, il connaît sa fonction, il sait ce qu'il a à faire. Il ne va pas empiéter dans le domaine des autres, il ne va pas prendre la place des autres. Automatiquement, nous disent Chachamim, Chachtalmide Chachamim, Marmim Shalom Baola. Quand la dame, la maman allume les nérodes de Shabbat. Cet allumage, nous dit le Maharal, à quoi sert-il? En quoi est-ce que c'est magique? C'est une ségoula d'allumer la lumière alors pour faire le shalom bayit? Non, nous dit le Maharal, c'est que lorsque nous allumons la lumière, qui est le rôle de la maîtresse de maison, les éléments sont définis. C'est comme si que nous savons à présent que chacun doit aller à sa place. Chacun a son rôle, chacun a son domaine de compétence, chacun a ses devoirs à accomplir. Donc, heureusement, aucun d'entre eux ne va empiéter chez l'autre. Et c'est cette midala qui va faire résider la tranquillité, la sérénité et l'harmonie dans la maison. C'est la raison d'être de l'allumage des nérodes de Shabbat pour qu'il y ait une harmonie de Shabbat dans la demeure. Construire un monde de bonté est le projet divin, la mission de l'homme est d'y participer. Pour cela, il doit travailler sa personnalité, ses midot, faire disparaître son égoïsme, se mettre au service du projet divin. La deuxième chose est de distinguer entre le spirituel et le matériel, les aspirations de l'homme et les aspirations de l'âme et les besoins de son corps. Le monde matériel n'est que le support du spirituel. L'homme qui se sanctifie en se consacrant entièrement au service divin élève la matière. Il lui donne une forme, une raison d'être. C'est le sens de la séparation. Le verset dit que l'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. C'est uniquement quand l'homme est endormi que Dieu les sépare. Le sommeil est la conséquence des retours à leur source, des éléments spirituels de l'âme. Il ne reste à l'homme qu'une toute partie de son âme, de son nefesh, qui se concentre en son cœur. Les parties spirituelles se libèrent de l'emprise du corps. Il est comme livré, le corps est comme livré à lui-même. Nos maîtres disent que le rêve est un 60e de la prophétie. Et d'autre part, ils nous enseignent que le sommeil est un 60e de la mort. Quand l'homme s'est endormi, il s'agit de l'homme et de sa femme liés dos à dos. Les forces spirituelles de leur âme se rechargent à leur source. Leurs corps sont séparés pour permettre le retour des âmes dans des corps nouvellement construits. La séparation se fait en 10 étapes. Du haut vers le bas, elle commence le jour de Rosh Hashanah et se termine la veille du jour de Kippour. Hava symbolise la sphira du Malchut, la royauté. Elle est une construction entière, indépendante de 10 éléments. Le premier jour apparaît la sphira du Keter, la couronne. Le deuxième jour, la Chochma, la connaissance, etc. Ainsi, nous avons l'obligation, pendant les jours de pénitence, de réparer en nous les éléments de la séparation. C'est la définition même de la Teshuva, le retour que l'on traduit par le repentir. Bien que la séparation se fasse du haut vers le bas, notre obligation de réparer nos actions se fait, elle, du bas vers le haut. Il n'y a pas de contradiction en cela. À la création, il n'y a pas que les éléments soient diffusés du haut en bas. Car l'homme n'a pas encore commis de faute. Cela ressemble à une naissance, où c'est la tête du bébé qui sort en premier. Et les forces vives de son âme se répandent de la tête au reste du corps. Cependant, tous les jours de pénitence, nous devons effectuer un retour sur nous-mêmes, comme si nous retournions dans le ventre de notre mère. La tchouva est une nouvelle naissance. Il s'agit de retourner à l'instant qui a précédé la naissance. La construction se fait alors du bas vers le haut, comme celle de l'embryon. La sphira du Téféret, étant dans la torpeur, elle ne diffuse pas son flux sur nous. Il faut donc la réveiller. C'est là qu'intervient le shofar. Étant donné que la sphira du Malchut apparaît dans toute sa dimension, elle reçoit ses forces vives directement de la source, qui est la sphira de Bina, l'intelligence, sans passer par la sphira de modération du Téféret. Les rigueurs sont puissantes et se répandent avec force. C'est la dureté du jugement qui s'applique sur la création. Il est absolument primordial de modérer les rigueurs et de les atténuer. Pour cela, nous devons réveiller la sphira du Tiferet par la sonnerie du shofar. En se réveillant, le Tiferet, Adam, va recevoir des forces vives, de nouveau d'une qualité supérieure. Il pourra alors se retourner vers le Mahout pour lui dispenser son flux et apaiser sa rigueur. Le shofar a alors une double action. Il réveille d'une part les mondes supérieurs et d'autre part les individus, comme il est dit dans le verset d'Amos. Si le shofar sonne dans la ville, est-ce que le peuple ne se mettra pas en émoi? Le moment est propice à la prise de conscience de la réalité absolue. Avoir la volonté de s'abandonner entièrement au Créateur, c'est la qualité de notre réveil, qui donne à celui du haut toute son ampleur. Le travail de Tshuva, le retour, que nous devons mettre en œuvre pendant ces 10 jours, correspond aux 10 sphirot partant du bas vers le haut. La sphira de Keter, la couronne, marque le début de l'émanation. Elle représente l'unité et l'origine, le principe premier de tout le système. Elle correspond au 10e jour. La mida à travailler est la modestie. Agir avec patience, bonté, ne voir en toute chose que le bien. Ne pas donner d'importance à ce qui paraît être négatif. La Sphira de Chochma, la sagesse, elle représente un amour suprême. Elle a deux facettes. L'une regardant vers le haut, vers le Keter, pour recevoir, et l'autre tournée vers le bas pour dispenser ce qu'elle reçoit. Elle correspond au neuvième jour. L'Amida a travaillé, enseigné, transmettre son savoir, se mettre au niveau des autres et permettre à chacun de comprendre. Prier pour ceux qui souffrent et avoir de la compassion pour toutes les créatures. La Sphira de Bina donne naissance aux autres Sphirotes. Elle en est la mère. C'est la matrice. Elle correspond au huitième jour. L'Amida a travaillé la Teshuvah. Elle nettoie les salissures comme une mère le fait pour ses enfants. Il n'y a pas de vie possible sans Teshuvah. Essayant chaque jour de méditer à ce que l'on pourrait améliorer dans nos actions et notre comportement. La Sphira de Hesed, la bonté, l'amour divin, est associée au patriarche Abraham. Elle est l'expression de la bonté totale, de l'amour. C'est la droite. Elle correspond au septième jour. L'Amida à travailler est celle de l'amour. Faire le bien autour de soi en pensant à réparer les mondiaux. Faire la tzedaka plus qu'à son habitude avec son argent et son corps. Reconcilier ceux qui sont fâchés, un couple ou des amis. La Sphira de Gvura, la rigueur, est celle de gauche. Elle se déploie pour combattre le mal. La loi, l'ordre, c'est l'organisation contre l'anarchie. Elle permet au monde de perdurer. Elle correspond au sixième jour. La Mida à travailler et la maîtrise de soi. Ne pas laisser le penchant du mal se réveiller, ce qui renforcerait les rigueurs. Mettre toutes ces forces au service des mitzvot, comme les maîtres ont dit, sois fort comme le lion pour faire sa volonté. La Sphira de Tiferet, l'harmonie, c'est l'équilibre entre le Hesed et le Din. Elle est confondue avec la colonne centrale, la beauté. Elle correspond au cinquième jour. La Mida a travaillé l'étude de la Torah avec modestie, dans l'intention de réparer la Shekhina, c'est-à-dire de dévoiler la vérité, la halakha juste. La Sphira de Netzach, l'éternité, victoire dans le sens de la maîtrise des choses. L'organisation de la vie dans le monde matériel est symbolisée par la jambe droite qui repose sur la terre ferme et par Moshe, notre maître. Elle correspond au quatrième jour. La Sphira de Hod, la gloire, elle représente la gloire de la Torah. Elle est symbolisée par la jambe gauche. Les deux jambes sont considérées chacune comme étant un demi-corps. Elles sont complémentaires. Elle est représentée, le Hod, par Aaron à Cohen, qui sert de bouche à Moshe. Ces deux sphirotes sont indissociables. On ne peut pas marcher avec une jambe et pas l'autre. Elles représentent les jambes fragiles de ceux qui se sont consacrés à l'étude de la Torah. La Midat a travaillé et le soutien à la Torah, apporter de l'aide à ceux qui étudient, les encourager pour qu'ils aillent de l'avant. Ceux qui étudient la Torah orale sont dans la Sphira de Netzar. Quand on étudie la Mishnah, on est dans le Hod. Si on se consacre au Talmud, on lui dit les deux Sphirot. De manière que le Tiferet donne son flux aux Sphirot suivantes. La Sphira du Hesod, le fondement, c'est le Tzadik, le juste qui reçoit les flux supérieurs pour les déverser dans la Sphira de Malchut représentée par le Brit Mila. Dans le corps, c'est Yosef. Le Yosef a tzadik, elle correspond au deuxième jour. La Mida a travaillé, se préserver de toute impureté et de tout ce qui pourrait être en être la cause. Garder sa bouche et ses paroles inutiles, garder sa bouche des paroles inutiles et des paroles vaines. Surveiller son regard pour qu'il ne se pose pas là où c'est interdit. Se comporter avec pureté et sainteté. La dernière Sphira, le Malchut, la royauté, elle synthétise en elle tous les flux qu'elle reçoit par l'intermédiaire du Hesod pour les redonner à la création. Elle ne possède rien de par elle-même. Tout ce qu'elle possède, elle le doit au Sphirot supérieur. Elle est désignée par le Dalet. Dalet, ça veut dire « je n'ai rien ». C'est le roi David qui la représente. Elle est liée au Hesod. Le Dalet se transforme en « et », formé du Dalet et du Vav qui représentent le Hesod. Elle est assimilée à la Shekhina, elle correspond au premier jour. L'Amida qu'il faut travailler, se considérer comme un pauvre. Tout ce qui l'on possède vient de la miséricorde. Agir avec la crainte de Dieu et pour sa gloire. Nous avons ainsi établi un programme qui va de Rosh Hashanah à Kippour pour améliorer les midot qui correspondent à chacun de ces jours. Et chacun de ces jours répare il y a 7 jours dans la semaine entre les 10 jours de pénitence, il y a les 7 jours de la semaine qui sont entiers à part Rosh Hashanah et Kippour. Et automatiquement, nous avons la possibilité de réparer tous les jours de la semaine. Un jour, le lundi, le mardi, le dimanche, etc., répareront tous les jours qui sont dans l'année écoulée. Il est rassurant que Kakesh Bokhu nous donne la force d'agir de la sorte. Nous avons traité les éléments suivants selon le livre du Tomer Deborah qui développe ces notions-là largement. Yiratson, quelques jours, nous donne la force d'aller de l'avant et qu'il nous illumine de ses lumières et qu'il octroie en ces jours à venir de Rosh Hashanah et de Kippour, toutes les bénédictions à son peuple et qu'il comble chacun de tous ses attentes. Baruch Adonai Leolam. Amen.